ma voix, celle que vous entendez. Et puis, il y a ma petite voix, celle qui ne parle qu'à moi, dans ma tête. Pas tout le temps, mais souvent. Je passe ma vie en monologue, voire même en dialogue intérieur.
Non, mais il y a forcément des gens qui se parlent à eux-mêmes.
Oui, oui, peut-être que moi, je sais pas.
Bon, elle est bien sans trop.
Est-ce que vous aussi, vous vous parlez à vous-même? Est-ce que tout le monde se parle à soi-même?
Ben, c'est une excellente question que je me pose de plus en plus. Et je songeais justement à faire des études très spécifiques pour s'intéresser à cette question.
La voix que vous entendez, elle n'est pas dans ma tête. Elle est au micro de Microscience. Et vous y êtes les bienvenus. Microscience, un podcast de la RTS. C'est Anne-Lise Giraud qui me parle de mon dialogue intérieur. Elle est professeure en neurosciences à l'Université de Genève, co-directrice du pôle de recherche national Evolving Languages et la toute nouvelle directrice du tout nouvel institut de l'audition de l'Institut Pasteur à Paris. Ça en jette, hein. Mais en fait, son métier, je crois, c'est d'essayer de fixer des haut-parleurs à nos neurones.
Et c'est pas si faux que ça. On travaille sur des haut-parleurs de neurones, mais si il y avait juste le côté haut-parleur, on entendrait.
On va voir comment ça fonctionne, ces haut-parleurs à neurones, et si ça fonctionne vraiment. Mais là, il y a urgence. Il y aurait donc des personnes qui ne se parlent pas à elles-mêmes. Pour moi, c'est inconcevable.
Je pense que tout le monde ne se parle pas à soi-même avec le même degré, ça c'est évident. Il y a des gens qui sont très linguistiques, puis il y a d'autres qui sont, on va dire, peut-être en conversation avec eux-mêmes, mais sur un mode beaucoup moins linguistique, beaucoup plus visuel, beaucoup plus multiforme. Donc je dirais non.
Sérieux? Bon, ben me voilà fixée, on peut arrêter l'épisode là, non? Ou peut-être pas. Tout le monde pense. Alors c'est quoi la différence entre penser et se parler à soi-même?
Alors, penser, ça peut être juste se laisser aller à une relaxation qui s'accompagne de pensées qui sont multiformes, qui vont venir de toutes les régions différentes de notre cerveau. Ça peut prendre une forme visuelle, ça peut prendre une forme auditive. On peut penser à des voix, mais sans qu'il y ait un contenu. Et c'est vrai que, par contre, se parler à soi-même, c'est du langage.
Ah oui! Alors c'est vrai que quand on pense à quelque chose, on met pas forcément un mot dessus. Quand je pense au gâteau que j'ai fait il y a quelques semaines, une tuerie celui-là d'ailleurs, je vois le gâteau, je sens presque le goût, mais je ne dis pas forcément le mot gâteau. Ah bah si, là je viens de le dire. Donc, quand je le dis, ce mot gâteau, quand je pense au mot gâteau, ça fait quoi dans mon cerveau?
Donc ça prend un canal très particulier. Qui va donc impliquer des régions de notre cerveau très particulières aussi.
La pensée n'est pas stockée au même endroit que ma voix intérieure.
La pensée, elle est stockée partout. Mais notre petite parole intérieure, elle va être, elle, stockée dans le réseau du langage, donc dans notre hémisphère gauche.
Je ne sais pas vous, mais moi, toute seule, face à mon micro, je me touche le côté gauche du crâne. Je caresse ma voix intérieure.
Entre le lobe temporal et le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est sous notre front. Et le lobe temporal, c'est derrière notre oreille, en quelque sorte. Et donc, ces deux régions, du côté gauche, sont les régions du langage. Et pour le coup, ces deux régions se parlent entre elles continuellement quand nous parlons oralement, mais également lorsque nous pensons la parole.
Et donc, quand je pense le mot « gâteau », qu'est-ce qui s'allume dans ma tête?
La parole interne, curieusement, allume, tel que vous le dites, des régions qui sont très similaires aux régions qui s'activent lorsqu'on va prononcer la parole en vrai. Les niveaux d'activation ne seront pas les mêmes et les synchronisations entre les différentes régions vont être un petit peu moins marquées.
Et là, c'est le moment où ma petite voix intérieure cherche à résumer ce que j'ai compris. Tout le monde pense. Et la pensée est partout dans le cerveau. Tout le monde se parle à soi-même, mais certains et certaines plus que d'autres. Lorsque je pense à quelque chose, mon cerveau s'active dans sa globalité. Et lorsque je pense à un mot ou que je me parle à moi-même, c'est la zone du langage qui s'active, même si je ne parle pas vraiment. Enfin, si, à moi-même.
Effectivement, il y a une séquence entre le moment où je vais solliciter le concept jusqu'au moment où je vais décider de le faire rentrer dans un plan articulatoire. Quand je suis en conversation, comme en conversation avec vous, le timing est bien programmé, puisque vous me posez une question, je dois répondre dans les temps, etc. Lorsqu'on est en conversation avec soi-même, on est beaucoup plus en roue libre.
Je vous le confirme.
Voilà, donc le timing est plus flou et c'est moins forcément précis et on peut se parler à soi-même tout en ayant également des images visuelles qui viennent peut-être un peu plus précisément. Donc c'est assez complexe cette parole interne.
Je vous le confirme vraiment. Si je pense à un objet, une table par exemple, parfois je la vois dans ma tête, parfois je vois le mot et il va se passer des choses différentes dans mon cerveau. En fait, plus je pense à des choses précises, plus je les vois au fond de ma tête. Si je pense à une table basse verte, j'aurais tendance à la voir plutôt qu'à la conceptualiser.
Donc le concept table peut avoir une forme visuelle, évidemment, auquel cas ça va être la partie visuelle de notre cerveau qui va s'activer. Et là, on parle du cortex occipital, donc qui est à l'arrière de notre tête.
C'est derrière, juste au-dessus de la nuque, si jamais vous aviez oublié.
Donc effectivement, ça va être différent lorsque on évoque le concept table et lorsqu'on décide de mettre en mots véritables le concept table. Par contre, on peut évoquer par exemple un outil où là, ça va moins être visuel, mais ça va être pragmatique. Donc, à ce moment-là, si j'évoque un marteau, c'est surtout l'action de taper sur un clou avec un marteau qui va s'évoquer dans mon cerveau. Et à ce moment-là, je vais impliquer le cortex pariétal, donc qui est au-dessus, derrière le frontal. Ce sera surtout celui-ci qui va s'activer pour un marteau.
Et quand j'ai l'intention de prononcer un mot ?
Si je vous dis le mot « liberté ». Liberté n'a pas besoin d'avoir une forme articulatoire particulière, mais si je veux le prononcer, je vais devoir le mettre en forme. Voilà. Et dire « liberté ».
Et donc, là, ma petite voix se dit « En fait, il y a plusieurs façons d'exprimer quelque chose. Sous forme de concept, sous forme d'image, de son, ou bien sous forme motrice pure quand on veut dire le mot. » Tout ceci m'a l'air très bien conçu. Mais j'imagine bien qu'il y a des moments où le système dysfonctionne.
Il y a plusieurs pathologies qui peuvent aboutir à ce résultat-là. Il peut y avoir des pathologies purement motrices, par exemple des dégénérations des neurones dans la moelle épinière qui font qu'on n'a plus du tout la possibilité de bouger, donc y compris d'articuler. Donc en général, ces personnes peuvent garder des mouvements oculaires qui leur permettent de communiquer via les mouvements oculaires et via des interfaces assez complexes. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien avec ça. Il y en a d'autres qui s'en sortent pas. Et puis après, il y a tous les aphasiques qui sont des personnes en général qui ont eu un accident vasculaire cérébral où là, la lésion va se situer dans le cerveau, dans le cortex. Donc là, on va avoir des morceaux de cortex qui ne fonctionnent plus. Et lorsque c'est dans le lobe frontal, ça va être toute la partie articulatoire qui ne fonctionne plus. Alors que la partie réception et la partie, on va dire, une certaine proportion de la partie planification de la parole est toujours là.
Je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez curieuse de savoir comment on peut savoir tout ça sur notre cerveau. En fait, pour décrypter comment il fonctionne, Anne-Lise Giraud observe les signaux qui se trouvent dans notre cerveau. Mais ils ressemblent à quoi, ces signaux ?
Les signaux, c'est toujours pareil. On a des neurones qui émettent de l'activité électrique, qui communiquent entre eux via, en partie, cette activité électrique. Donc, quand ils se mettent à travailler ensemble, ils vont émettre une activité électrique détectable qu'on va pouvoir repérer. Donc, on a des ondes électriques qui peuvent être à différentes fréquences. Et en ce qui concerne le langage, ça nous intéresse particulièrement, justement, de travailler sur ces différentes gammes de fréquences qui sont présentes dans les signaux.
Donc, en fait, c'est un tracé, hein, comme celui d'un électrocardiogramme, en gros. Et on peut plus ou moins zoomer sur les signaux et donc sur les ondes du cerveau. OK. Donc, quand je pense à un mot, sans le dire, on peut le voir sous forme d'onde. Mais ces ondes, elles dessinent pas des mots. Alors comment faire pour interpréter ces ondes ?
pour décrypter, il y a deux grandes options, je dirais. C'est soit essayer de décrypter l'activité du cortex moteur articulatoire, auquel cas, quelque part, on s'en fiche du concept qui est derrière tout ça. On va juste essayer de décrypter si la personne est en train de dire que, gre, ba, da, etc. Et on va reconstruire le signal. On va resynthétiser le signal à partir de cette activité pas vraiment motrice, puisque la personne, elle n'articule pas en vrai, mais elle va articulé, on va dire, dans sa tête.
Ah oui, ok, je dis un mot dans ma tête. Essayez de le décrypter.
Par exemple, imaginez-vous en train de prononcer le mot « liberté ». Et à ce moment-là, vous avez plusieurs façons de vous le représenter. Soit vous allez au plus près de l'articulation, donc vous vous imaginez prononcer « liberté ». Soit vous pouvez vous imaginer entendre le mot « liberté ». À ce moment-là, ce que je peux décoder, ça va être l'activité de votre cortex plutôt temporal, plutôt auditif, où là, je vais essayer de repérer les activités qui vont correspondre au son phonologique, au son de parole. Donc, on a ces différentes options. On peut également décrypter l'écriture, c'est-à-dire, je peux aussi vous dire, essayer de vous représenter le mot « liberté » écrit. Donc, là, vous voyez « liberté ». À ce moment-là, je vais me placer dans une autre région de votre cerveau, qui est à la jonction du lobe temporal et du lobe occipital, qui est spécialisée dans les signes de l'écriture et la lecture. Et ça marche aussi.
Donc on peut lire les mots dans mon cerveau ?
Pour l'instant, on n'est pas encore complètement avancé. Peut-être que les vrais succès seront obtenus en piochant un peu dans toutes ces formes distinctes de représentation. Typiquement, les choses sur lesquelles on est en train de travailler.
En fait, on n'y arrive pas encore. Mais qu'est-ce que la science peut faire vraiment ?
Selon la méthode qu'on utilise, il va y avoir des quantités différentes de choses à décrypter. Si je me mets au niveau du mot, il y a une infinité de mots auxquels on peut penser.
Bah oui, le français de base, c'est à peu près 30 000 mots. Un dictionnaire complet, c'est trois fois plus.
Donc ça, la problématique qui va être une problématique d'apprentissage machine, si je peux dire, c'est-à-dire un algorithme va devoir apprendre à différencier l'activité neurale qui correspond au mot chat de celle qui correspond au mot serpent, par exemple. Et ce problème-là, il est impossible puisqu'il y a beaucoup trop de mots. Donc il faut qu'on se mette dans un espace réduit. Donc si je prends le côté articulatoire, on a un nombre, on va dire, une quantité limitée d'articulations possibles. Donc à partir de là, je devrais avoir un code exploitable. Une autre possibilité, qui est celle sur laquelle nous travaillons, c'est la possibilité syllabique. L'idée qu'on a en se basant sur les syllabes, c'est qu'à partir d'un nombre assez limité de syllabes, je vais pouvoir dire un nombre assez grand de mots. Et l'autre argument, c'est qu'on apprend quand même à parler sur une base syllabique. C'est-à-dire le petit enfant, il va babiller et il babille pas en faisant des schémas articulatoires très complexes. Ça va surtout être du ba, 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 da, 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 etc. Donc notre idée, c'est que la syllabe, c'est vraiment l'unité de base du langage oral. Et donc, c'est la voie vers laquelle nous tendons, mais avec pas forcément de plus grandes chances de succès que les autres. C'est en cours.
Et là, je comprends mieux pourquoi Annelise Giraud essaye de fixer des haut-parleurs à nos neurones. Enfin, comme elle nous l'a dit en début de sujet, et je ne m'en lasse pas, s'il n'y avait que le côté haut-parleur, on entendrait...
Donc, sans une machine pour décoder ce que tout cela veut dire. Donc, la machine, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre sur une quantité énorme de données neuro. Elle va apprendre telle activité neuronale, ça correspond à telle syllabe, telle activité neuronale à telle autre syllabe. Et du coup, avec la classification et avec des modèles de parole probabilistiques qui font que, par exemple, si je vous dis « libère », la prochaine syllabe, ça va être T dans 100% des cas. Non, il peut y avoir liberticide, mais T va être le plus probable. Et du coup, les modèles de langage qui existent déjà, couplés à nos décodeurs de syllabes, devraient faire qu'on va arriver à décoder suffisamment bien.
Mais alors, un jour, on pourra lire dans mes pensées ? Ça m'arrangerait, je pourrais rédiger un peu plus vite mes sujets, non ? D'un autre côté, c'est un peu horrifiant quand même. Si tout le monde voyait le chenille qu'il y a dans ma tête.
Je pense qu'il faut distinguer les pensées et le langage intérieur. Les pensées, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de décrypter les pensées des gens. On sait qu'on peut, par exemple, arriver à lire plus ou moins les activités lorsque les gens rêvent.
Oui, je me souviens, c'était techniquement difficile. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus. Mais lire dans mes pensées éveillées, sérieux, ça serait possible un jour.
J'ai du mal à imaginer l'intérêt, au moins sur le plan thérapeutique. Par contre, sur le plan du langage, on a des gens qui souhaitent communiquer et qui ne peuvent plus communiquer de façon linguistique. C'est quand même la façon de communiquer avec notre environnement, avec nos proches. Donc, on est bien dans une problématique de communication. On n'est pas dans une problématique de pensée. Donc, lire les pensées, c'est pas ce qu'on fait, en fait. Nous, on essaye de sortir les gens d'un enfermement non communicatif, plutôt.
Je suis un peu rassurée. Lire le langage dans mon cerveau, c'est une chose. Mais lire ma pensée, ça me poserait un problème. Sans parler des émotions.
Là aussi, je donnerais une réponse semi-éthique, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment aller si loin? Donc, probablement, on pourrait aussi interfacer le système émotionnel pour essayer de qualifier le mot auquel la personne pense et y mettre de l'émotionnel. Je ne pense pas que c'est la direction dans laquelle on va, dans le sens où la beauté de l'interfaçage du langage, c'est qu'il y a cette base volontaire, c'est-à-dire, je décide de communiquer avec autrui et donc de communiquer via le langage et donc d'activer la partie de mon cerveau qui est celle du langage. Et le système qui permettra de décoder le langage, il ne permettra pas de décoder le reste pour, on va dire, préserver la personne et l'intimité de la personne. Donc on songe même aussi à éventuellement introduire des codes pour signaler au système de décodage, à partir de maintenant, je veux que tu décodes, mais mes pensées de tout à l'heure, toutes vos petites voix intérieures, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde les entende.
En effet, pas tout le monde. Juste vous, mes chères visiteuses de microsciences. Je ne trouve pas les mots pour exprimer la fascination que m'inspire mon cerveau. Enfin, pas que le mien, le vôtre aussi, ne soyez pas tatillon. Je me posais la question tout à l'heure. Vous vous demandez, vous, parfois, où se trouvent les mots dans la tête et pourquoi certains nous échappent? Moi, je me dis que si je devais tuer le temps sur une île déserte, je dresserais la liste de tous les mots que je connais. J'espère juste que j'aurai assez de crayons et de papier sur mon île déserte. Il y a des périodes où... Je trouve pas le mot du truc que je veux exprimer. Le stock de mots, notre dictionnaire interne, il est où?
La réponse générale, ça va être que tout notre cerveau participe à notre système sémantique. Si on se représente le mot « courir », par exemple, le cortex moteur va faire partie de cette représentation. Donc, pour ce qui est des concepts, c'est vraiment très délocalisé, mais on va dire que notre système sémantique est relativement spatialement organisé, où on va avoir, par exemple, pas très loin les uns des autres, tous les animaux, toutes les choses qui ont quatre pattes, toutes celles qui ont deux ailes, etc., etc. Mais dans les quatre pattes, il va y avoir aussi la table, qui, elle, n'est pas animée. Donc, il va y avoir aussi cette distinction animée-inanimée, pragmatique-non-pragmatique, sur lequel je peux intervenir, ou les choses plus abstraites, etc.
En fait, ça ressemble à mon armoire d'habits. Il y a les pulls, les pantalons, les chemises sont pendues à côté des robes, mais certains pantalons sont pendus avec la chemise qui va avec, mais il y a une vague logique dans les couleurs et la longueur des robes. Vous me suivez? Non? Eh bien, le stock de mots, c'est un peu pareil.
Donc, il y a de l'organisation spatiale, ça c'est pour ce qui est des concepts, et pour ce qui est des mots, ben, il y a un côté lexique, qui est effectivement un dictionnaire, qui occupe une partie de notre lobe temporal, où là, il y a déjà la forme, on va dire, phonologico-articulatoire, qui est là, pas très loin. J'espère que ça vous donne une petite idée.
Sinon, je vous envoie une photo de mon armoire. Mais tout à coup, bingo! Je comprends mieux pourquoi certains mots ne me viennent pas tout de suite. Vous savez, quand on a le concept et qu'on cherche le mot qui va avec. Mais oui, c'est le truc qui va sur le machin. Je l'ai presque. Il est agaçant, ce mot qui nous échappe. Et puis, en plus, il ressemble à l'autre, là, à l'autre mot.
Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais effectivement, très souvent, on va retrouver un mot qui nous échappe par la proximité phonologique. Effectivement, sur le domaine lexical, donc lexique, le dictionnaire, les aspects auditifs et phonologiques sont très présents. C'est beaucoup plus le cas quand on cherche un mot, on va retrouver beaucoup plus via cette phonologie que via le concept, puisque le concept est délocalisé, alors que la phonologie va être probablement plus proche. On va avoir des petits circuits assez proches les uns des autres.
Des circuits qui nous permettent de faire des liens entre les mots, la pensée et ma petite voix intérieure. Ils ont encore beaucoup de choses à nous révéler. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un mot qui ne m'est pas venu en début d'épisode. Et je viens tout juste de mettre la main dessus. Merci d'écouter Microsciences, le podcast qui transforme nos petites conversations intérieures en grandes réponses scientifiques et neurolinguistiques.
Pourquoi je n'ai que deux bras? Que se passe-t-il quand je dors? Le zèbre est-il blond avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches? Les virus sont-ils utiles? Dois-je me remettre au sport? Qui m'enverra la prochaine question de Microsciences?
Abonnez-vous si ce podcast vous plaît sur les plateformes de streaming audio dont les noms m'échappent, mais il est question de pommes, de projecteurs ou encore de play à trois lettres. Ils sont les voix de la sagesse et de la bienveillance. Grégoire Moll, coproducteur, qu'aucun mot ne pourrait qualifier. Et Jérôme Nussbaum, à l'habillage musical et à la réalisation, qui guérit aussi tous mes maux. En terminant cet épisode, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quoi vont ressembler les haut-parleurs à neurones dans le futur.
Ce vers quoi nous tendons, ça va être, on va dire, des électrodes qui sont le plus gentil possible, le plus souple, qu'on mettrait à la surface du cortex, donc le moins invasif possible, et qui seraient reliées à un amplificateur de signal, puisqu'on va recueillir des toutes petites activités électriques. Et l'information électrique va donc devoir alimenter un système de décodage, donc un algorithme qui va décoder. Donc on va aller vers une technologie qui est un peu similaire à celle de l'implant cochléaire, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais les personnes sourdes donc, ont une électrode dans l'oreille et elles ont tout un dispositif qui est complètement sous la peau et qui dialogue avec l'extérieur par en wireless, donc sans fil. Donc ces technologies sont très connues pour l'implant cochléaire, mais pour les implants corticaux, c'est encore en développement. Donc on va s'acheminer vers ça pour éviter tout risque d'infection, puisqu'il faut absolument pas qu'il y ait de fil qui sorte du patient.